Vous allez nous présenter des documents très émouvants qui reconstituent la mort tragique de votre grand-oncle, l'interne Félix Jaïs, décédé à Alger en 1899 en soignant des malades atteints par le typhus. Mais avant que nous en parlions, chers auditeurs, je voudrais d'abord vous présenter Pierre Jaïs. Pierre, vous êtes né à Neuilly-sur-Seine en 1947 de parents originaires d'Alger. Votre papa, Marcel Jaïs, qui était interne des hôpitaux d'Alger et interne des hôpitaux de Paris, s'est installé à Paris comme médecin en 1933. Il y était arrivé pour faire ses études avec ses amis Pierre Aboulker et Paul Chiche, qui auront une remarquable carrière dans les hôpitaux de Paris. Et lors de votre service militaire en Allemagne, Pierre Jaïs, en 1969, vous avez été l'un des derniers gardiens de Rudolf Hess à la prison de Spandau à Berlin. Vous avez fait vous-même une belle carrière dans l'industrie pharmaceutique et notamment comme directeur de marketing d'un des trois laboratoires du groupe Pierre Fabre, où vos succès commerciaux ont permis la création de 60 emplois de délégués. Vous vous occupez ensuite le même poste au sein des laboratoires Fournier-Dijon, groupe Urgo, dont vous aimez à rappeler que le créateur de ce laboratoire, M. Lelousse, fut un juste qui cacha une famille juive pendant l'occupation. Pierre Jaïs, vous avez terminé votre carrière au sein du laboratoire UCB France, où vous avez assumé la direction de trois importants services. Et parallèlement à toute cette activité professionnelle, vous n'avez cessé de donner des cours au master de marketing de la faculté de pharmacie de Paris-Sud et au master santé de l'ESSEC. Et j'ajouterai pour terminer que vous êtes encore actif au sein des associations professionnelles de l'industrie pharmaceutique et vous êtes membre du bureau de l'ACIP, qui est l'association des cadres de l'industrie pharmaceutique. Chers auditeurs, je vous ai présenté M. Pierre Jaïs et nous allons maintenant entrer dans son interview. Mais je voudrais vous rappeler d'abord très brièvement les caractéristiques du typhus, cette maladie gravissime, parce qu'elle est justement au centre l'histoire qui va vous être contée. Le typhus, c'est une maladie grave, c'est une infection provoquée par des bactéries de la famille des rickettsioses. C'est une maladie transmise ou bien par le pouls corporel, et c'est Charles Nicolle qui a découvert ce mode de transmission en 1909 à Tunis, ou bien par la puce des rats, et c'est une infection qui entraîne une forte fièvre, des frissons, des douleurs diffuses, des maux de tête, une éruption généralisée de petits points rouges, et le patient tombe et sombre dans un état de stupeur, d'où le nom de typhus. Typhos en grec, il ne parle plus, il se met parfois au contraire à délirer avec des propos incohérents et le typhus va frapper les adultes sous-alimentés, confinés en l'absence de toute hygiène dans des navires, des camps, des prisons et avant l'ère des insecticides et des antibiotiques, la lutte contre le typhus se résumait pratiquement à des mesures d'isolement dans des lazarets et à la mise en quarantaine des navires qui provenaient de régions suspectes. Alors aujourd'hui, alors que la maladie a pratiquement disparu, grâce aux antibiotiques bien sûr, on aurait vraiment tendance à oublier son importance et sa gravité dans les années 50. Et alors, la première question, Pierre Jaïs, l'épidémie de typhus dont votre parent Félix Jaïs fut la victime se déroule en 1898 dans le climat très particulier de l'affaire Dreyfus et dans une Algérie terriblement antisémite.
Oui, vous pouvez en juger. En avril 1898, lorsqu'Édouard Rumont arrive à Alger pour annoncer qu'il va se présenter aux élections législatives sous l'étiquette candidat anti-juif. Il est accueilli par une foule d'hommes et de femmes chargés de fleurs et bouquets tricolores qui crient sa joie, entonnent la Marseillaise et hurlent sporadiquement « Abat les Juifs ». En 1898, la totalité des 36 conseillers municipaux d'Alger, élus, dont Drumont, sont anti-juifs. Marx Régis, leur leader, auteur de La France juive, l'un des plus violents pamphlets antisémites de la fin du XIXe siècle, écrit alors dans son journal anti-juif « Il faut que les juifs partent et qu'ils partent de bon gré aujourd'hui s'ils ne veulent pas partir de force demain ». D'ailleurs, dans son livre, Pierre Hébé écrit l'hystérie antisémite qui traverse l'Algérie, injures, magasins juifs pillés, interdiction aux juifs de se rendre dans certains lieux, descente dans les quartiers juifs, etc., sont monnaie courante.
Pierre Jaïs, nous allons revenir à votre grand-oncle, à votre parent, Félix Jaïs. Mais qui était Félix Jaïs? Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques caractéristiques?
Alors, Félix Jaïs est né à Alger le 3 octobre 1872. Il était issu d'une famille modeste et nombreuse. Il était le frère aîné de mon grand-père Eugène Jaïs. Félix Jaïs était donc mon grand-oncle. Il avait été nommé interne des hôpitaux d'Alger dans les années 1896-1897. Il était marié, n'avait pas eu d'enfant et demeurait avec son épouse à Alger dans le quartier de Bab El Oued.
Et vous pouvez nous dire dans quelles circonstances il a été amené à s'occuper des malades atteints de typhus?
Alors, Félix Jaïs était alors interne à l'hôpital Mustapha, qui est le grand hôpital d'Alger, lors de l'épidémie de typhus qui a frappé Alger en 1898. Donc, sur la demande des autorités, répondant à l'appel de la préfecture, il se porta volontaire au chevet des patients, regroupés dans un centre de soins qui était le centre El Kétar. Ce centre était particulièrement dangereux, car c'était celui où étaient regroupés de nombreux malades du typhus très contagieux.
Mais alors, quand Félix Jaïs, votre grand-oncle, se rend dans ce centre, est-ce qu'il y va tout seul?
Non, il n'y va pas tout seul. En fait, ils sont trois volontaires. Il est accompagné de deux autres internes, camarades, messieurs Bassager et Gillot. Ceux-ci vont rester 6 mois au centre El Kétar comme volontaires pour soigner les patients, puis vont le quitter pour reprendre leurs études de médecine. Auparavant, ils se voient tous deux récompensés d'une médaille d'argent des épidémies, distinction dont fut exclu Félix Jaïs, probablement du fait de sa confession juive.
Il ne faut pas oublier en effet qu'à l'époque, je crois que l'Algérie était assez
antisémite, comme on l'a dit.
Et vous l'avez très, très justement, Pierre, souligné. Et j'ai envie de vous demander, mais une fois que ses camarades sont partis, que décide Félix Jaïs, lui?
Alors, Félix Jaïs, voyant qu'il est resté seul et que le remplacement des partants n'était pas assuré, mu par des sentiments humanitaires, a demandé à rester et à soigner les typhiques, cela évidemment au péril de sa vie parce qu'il s'exposait encore plus davantage. Il y servira encore 6 mois supplémentaires, entouré de l'estime et de l'affection du personnel du centre. Malheureusement, c'est là que la maladie le rattrapa et en janvier 1899, il contracta le typhus.
Et bien entendu, les moyens thérapeutiques étaient alors très limités et très vite, son état va empirer et inspirer les plus vives inquiétudes, faisant même craindre une issue fatale.
Effectivement, son état empira. En effet, c'est ainsi qu'il va, compte tenu des perspectives, qu'il va recevoir 3 jours avant sa mort la médaille vermeille de la ville lors d'une brève cérémonie dont la vigie algérienne se fait l'écho. Je cite l'extrait de presse. Le 28 janvier, M. Laferrière, gouverneur général d'Alger, accompagné de son chef de cabinet, s'est rendu au centre d'El Kétar où se trouvent 17 typhiques. Il a tenu à rencontrer l'interne Jaïs dans le pavillon où il est traité et lui a remis une médaille vermeille des épidémies accordée en urgence par le ministre de l'Intérieur, cela sur la demande du gouverneur général. Le gouverneur général s'est approché du lit de Félix Jaïs, lui a adressé des paroles réconfortantes et lui a ensuite remis la médaille d'honneur en vermeil. Je continue et je cite l'article de presse. Félix Jaïs, que l'émotion étreignait, a répondu d'une voix faible aux félicitations de M. Laferrière. Je vous remercie, M. le gouverneur général. Je n'ai fait que mon devoir et je suis heureux de l'avoir accompli. Les personnes qui assistaient à cette scène ont été vivement impressionnées par ces nobles paroles, bien dignes de ce vaillant interne des hôpitaux qui a fait le sacrifice de sa vie pour essayer d'arracher ses semblables à la mort. Nous formulons à nouveau des vœux pour le prompt rétablissement du jeune étudiant Jaïs. Victime de son dévouement, de son courage, de son zèle. C'est la fin de la citation de cet article de presse.
Pierre Jaïs, mais ce qui est complètement incroyable, c'est qu'au milieu de ces louanges, il y a une voix discordante, vraiment qui dénote avec tout ce que vous avez lu, c'est celle du journal Le Siècle.
Oui, alors Le Siècle était un journal vigoureusement antisémite. En effet, le 31 janvier 1899, veille du décès de Félix Jaïs, le journal écrit, je cite, « L'état de cet étudiant inspire de vives inquiétudes, mais M. Jaïs est israélite, tous ces juifs sont décidément insatiables, les voilà qui se mettent à contracter le typhus pour se faire décorer. »
C'est ce que je vous disais, Pierre, on croit rêver. Et alors Félix, le malheureux Félix, votre grand-oncle, va décéder le 1er février 1899. Mais là, on peut dire que la presse unanimement lui rend hommage.
En effet, on peut lire dans la vigie algérienne du jeudi 2 février 1899, je cite... Monsieur Jaïs, interne en médecine, qui avait contracté le typhus en soignant les malades, transporté au centre d'Al-Qatar, est mort hier soir, le 1er février 1899. Il n'avait que 26 ans. Il allait être reçu docteur, et c'est en prodiguant ses soins à des chrétiens que cet Israélite a puisé les germes du terrible mal qui vient de l'emporter. De même, un autre journal antisémite, le Turco, écrit le vendredi 7 février 1899, je cite, « L'interne Jaïs est mort au centre d'El-Kétar. Il y donnait ses soins aux typhiques et a contracté au chevet des malades les germes du terrible mal qu'il a emporté. » Dans ce journal antisémite, nous nous inclinons devant l'esprit de sacrifice partout où il se manifeste et nous saluons la dépouille du jeune interne, victime de son dévouement à la science et à l'humanité. »
Monsieur Jaïs, lorsque les obsèques de Félix ont lieu le 2 février 1899, est-ce que la presse s'en est fait l'écho ?
Alors, la presse s'en est fait l'écho. On peut ainsi lire dans l'Express algérien du vendredi 3 février 1899, je cite, « Une imposante manifestation réunissait hier les autorités et une bonne partie de la population d'Alger autour du cercueil de Félix Jaïs. » L'interne en médecine, héroïquement tombé au chevet des typhiques au centre d'El-Qatar. Je cite encore, « La levée du corps a eu lieu au centre même, où le cercueil avait été exposé pour recevoir les hommages de la population. De nombreuses couronnes n'avaient cessé d'affluer, témoignant de l'émotion profonde et de la vive sympathie provoquée par ce malheur. Parmi les couronnes, relevons celles des internes et des externes du corps médical et du personnel de l'hôpital, l'association des étudiants de Paris, d'Alger et du personnel de la prison civile. »
Si bien, et ça on s'en rendra compte tout à l'heure, c'est que le décès de Félix Jaïs a eu un retentissement national, et d'ailleurs parmi les condoléances vont affluer les condoléances d'éminentes personnalités.
En effet, je dispose toujours dans mes documents de la carte de visite de Clémenceau, qui a envoyé ses condoléances à sa veuve, qui est Clémenceau, comme vous le savez tous, est l'ancien député et surtout ancien président du Conseil et ministre de la Guerre en 1917. Louis Barthou, qui a été aussi président du Conseil, la baronne de Hirsch, de Guéreut, qui est moins connue, Edmond Bicarcé, qui était avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Maurice Lévy, qui était membre de l'Institut. Je cite les principaux, mais les condoléances étaient énormes. On a reçu énormément de condoléances.
Mais nous disions, Pierre Jaïs, que le retentissement du décès de votre parent et grand-oncle Félix était national, mais il est survenu dans le climat très particulier d'une France en pleine affaire Dreyfus. Et alors, est-ce que cette affaire Dreyfus a eu des conséquences à Alger ?
Oui, sans aucun doute, car elle déclencha des débordements de passion, des affrontements entre pro et anti-Dreyfusard, alors que Drumont était député d'Alger. Les catholiques antisémites étaient nombreux, mais les prosémites ne l'étaient pas moins. Et il s'en est suivi des manifestations de rue à Alger, même des disputes, des bagarres, lors de l'enterrement de Félix Jaïs.
On ne respectait rien, quoi. On ne respectait rien. Et pour revenir justement sur ce retentissement émotionnel qui a suivi le décès de votre grand-oncle Félix Jaïs, même dans la métropole, son nom est évoqué à Paris lors d'une séance particulièrement tumultueuse et houleuse à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous en dire quelques mots à travers les extraits de presse dont vous disposez ?
Oui, en effet, le nom de Félix Jaïs est évoqué à la Chambre des députés dans un climat antisémite d'une rare violence dont la vigie algérienne du 26 mai 1899 se fait l'écho. Je cite... Débat sur l'Algérie à la Chambre des députés. Alors que M. Rouanet a la parole, Messieurs Morino, Drummond, Marshall et Lassier font un chahut d'enfer et Lassier crie pour conclure « Abat les Juifs ». Après une vive altercation qui se produit dans la tribune des directeurs de journaux, le tumulte est intense. On n'entend que le seul mot « anarchiste » fusé de toutes parts. L'agitation est à son comble et la séance est virtuellement suspendue pendant une dizaine de minutes. Monsieur Rouanet, qui est prosémite, rappelle que depuis 3 à 4 mois, il est traité, je le cite, de vendu aux juifs, de voleur, de fripouille. Il fait l'éloge du commerçant juif qui est, je le cite, plus sobre, plus travailleur et plus apte aux affaires. Et il raconte les troubles de Mostaganem, je le cite encore. Le docteur Azoulay y a été à moitié tué, battu dans la rue. Des femmes juives ont été fessées place Bresson, ainsi qu'un enfant de 6 ans. Il poursuit, M. Rouanet poursuit, « N'est-ce pas assez? On enlève le pain aux juifs d'Algérie et on les oblige à rester là-bas. C'est infâme. Quant aux juifs de Constantine, ils ne sont pas admis à la consultation médicale gratuite. Gratuite, on leur interdit l'entrée des écoles car les parents redoutent la contagion pour leurs enfants par rapport à maladies juives supposées. »
Maladies juives, il faut vraiment l'entendre ouais, pour y croire. Ouais.
Pour terminer, Rouanet conclut, pendant ce temps, ça c'est le point important évoqué à la Chambre des députés, pendant ce temps, l'interne Félix Jaïs trouvait la mort au chevet des malades, illustrant la martyrologie de la science.
Pierre Jaïs, j'ai envie de vous demander, bien que vous m'ayez montré ce cahier très précieux où vous conservez les documents transmis par votre grand-père, à partir de quels documents vous avez pu reconstituer cette tragique histoire et comment vous ont-ils été transmis ?
Alors, ces documents ont été conservés, archivés par mon grand-père Eugène Jaïs, qui était lui-même médecin. Hein. Il les a dans un cahier. Donc, les extraits de presse, il avait repris tous les extraits de presse, les condoléances, la carte de visite de Clémenceau, celle de Louis Barthou. Et il m'a demandé de les conserver et en conserver la mémoire. Alors c'est un certain nombre de pièces de l'époque conservées, donc comme je viens de vous le dire, et c'est mon grand-père Eugène Jaïs qui les a regroupées. Il les a transmis à ses petits-enfants, à moi-même et à mon cousin Jean Morali, qui était lui-même médecin psychiatre et qui vient de décéder, pour perpétuer le souvenir de cet événement dramatique, voilà, qui fait vraiment partie de l'histoire de l'Algérie française.
Oui, c'est quand même un événement de cette Algérie française de l'époque. Mmh. Et pour revenir un petit peu à votre grand-père Eugène Jaïs, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur lui ?
Oui, je suis très fier de lui. Mon grand-père Eugène Jaïs était un grand monsieur. Il était de 8 ans le frère cadet de Félix, donc l'interne d'Alger dont nous venons de parler, qui s'est sacrifié. Je rappellerai que mon grand-père Eugène Jaïs était né aussi en Algérie en 1880. Il était docteur en médecine, pharmacien. Il avait d'ailleurs été pharmacien avant d'être médecin. Il a fait une très belle guerre. Il était colonel de réserve. Il avait été décoré de la Légion d'honneur à titre militaire pour avoir mené, lors de la Première Guerre mondiale, une opération destinée à récupérer des blessés derrière les lignes ennemies. Il y fut blessé. Il est décédé en 1967 à l'âge de 87 ans.
Quand vous nous rappelez tous les exploits héroïque de votre grand-père, Eugène Jaïs, qui était donc le frère cadet de Félix, et qui a combattu donc Eugène si vaillamment pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Pendant la Première Guerre mondiale, pardon. Il faudrait ajouter que d'autres membres de la famille Jaïs se sont battus aussi pour la France.
Oui, alors là, il s'agit de la Seconde Guerre mondiale. Par rapport à l'exemple de notre grand-père, grand-oncle pour certains, Pendant la Seconde Guerre mondiale, quatre membres de notre famille, quatre Jaïs, ont combattu. En effet, Armand Jaïs a été tué à Baume-les-Dames, dans le Doubs. Roger Jaïs, qui était Saint-Cyrien, promotion 1940, a été tué à Planoy, dans les Vosges. En tout, quatre membres de la famille Jaïs participèrent au débarquement de Provence et ont combattu jusqu'à l'occupation en Allemagne.
J'aimerais que vous reveniez sur ce débarquement de Provence, Monsieur Jaïs, parce que il y a eu une grande participation des gens d'Algérie.
Alors oui, si on a un peu de temps, je me suis beaucoup intéressé à la chose. En fait, lorsque De Gaulle a supprimé l'abrogation du décret Crémieux, ça a permis de remobiliser les Juifs d'Algérie. Et ça a permis de constituer des effectifs assez importants pour pouvoir constituer une véritable armée digne de ce nom, dont les Américains avaient besoin pour le débarquement de Provence. Parce que le front en Normandie n'a pas été le succès dont on parle, les Alliés piétinaient. Donc 350 000 hommes ont débarqué en Provence. En fait, ces 350 000 hommes, c'était 250 000 Français. Sur 11 divisions, 7 étaient Français. C'est un vrai débarquement français, le débarquement de Provence. Et ça a beaucoup aidé le front de Normandie parce qu'ils ont remonté très rapidement la vallée du Rhône et les Allemands ont eu peur d'être pris en tenaille. Donc ça a été déterminant et ça nous a permis d'avoir une vraie armée qui nous a permis d'être à la table des vainqueurs, ce que ne souhaitaient pas les Américains.
Quand vous dites cette phrase, juste pour le rappeler, Roosevelt, lui, ne souhaitait pas du tout que les Français apparaissent comme des vainqueurs, finalement, au contraire.
Roosevelt voulait mettre la France à la place des vaincus, compte tenu de la collaboration de M. Pétain avec les Allemands, qui a envoyé des troupes combattre en Russie. Et ça lui permettait comme ça, c'était son dessein, de reprendre les colonies françaises, ce qui a été fait pour la Syrie et le Liban immédiatement d'ailleurs. Roosevelt, je le suspecte d'avoir été antisémite, il avait été prévenu par un résistant polonais de la Shoah. Il n'a jamais bombardé les lignes de chemin de fer qui menaient au camp. Et il était foncièrement anti-français. Ce qui lui a fait peur, ce qui a changé la chose, c'est qu'on avait besoin des troupes françaises pour le débarquement de Provence. Il n'y avait pas assez d'effectifs. Il avait peur aussi des résistants qui s'étaient regroupés autour de Gaulle. Il avait peur que les résistants retournent leurs armes contre les armées américaines s'ils se conduisaient en véritable vainqueur et surtout en nous traitant en pays vaincu.
Il a préféré discuter avec le général Giraud qu'avec
Ça a été scandaleux.
qu'avec le général de Gaulle,
Ça a été
finalement.
scandaleux. Il a discuté avec Darlan dans un premier temps avant qu'il soit assassiné, puis Giraud, qui tous les deux étaient des pétinistes non repentis. Ils ont prolongé à Alger avec les troupes américaines qui occupaient l'État français et le statut des Juifs, donc l'abrogation du décret Crémieux. Donc sous les Américains, les Juifs étaient dans des camps, étaient interdits d'exercer. Les Américains trouvaient ça normal. La démocratie américaine, la belle démocratie américaine, ça leur paraissait normal, simplement parce qu'ils préféraient des gens qui avaient déjà trahi leur pays en collaborant avec les Allemands et en se disant qu'après, ils trahiraient tout autant leur pays en collaborant avec les Américains qui nous mettaient dans le camp des vaincus.
Pierre, je vous remercie de ces précisions et pour revenir et terminer à votre parent, votre grand-oncle Félix Jaïs, est-ce que vous avez un projet pour encore mieux faire connaître le destin et l'histoire tragique que vous venez de nous raconter?
Alors, oui, j'ai un projet qui est pas facile à mener. C'est-à-dire, j'aurais souhaité un hôpital à son nom ou une salle d'hôpital à son nom. Moi, je trouve que son sacrifice est totalement d'actualité parce que au centre d'El-Kettar, il a soigné en fait les trois religions. Donc, l'Algérie était en fait un pays des trois religions, juifs, catholiques et musulmans. Et aujourd'hui, la France, on est bien obligé de reconnaître que c'est devenu aussi un pays des trois religions. Donc un hôpital dans un secteur un peu multiculturel, ça serait à mon avis le bienvenu.
Pierre Jaïs, je vous remercie vraiment. On peut souhaiter comme vous que votre vœu soit exaucé et la MIF sera toujours à vos côtés.
Merci
beaucoup. Bonsoir Pierre Jaïs, bonsoir chers auditeurs, et donc au mois prochain.
Merci, au revoir.
Les rendez-vous des médecins israélites de France. Tous les mois, l'AMIF a rendez-vous avec vous sur Judaïque FM, une émission préparée et proposée par le professeur Robert Ayat.